one love, one life, one world, one fight. Whole world, one night, one place. Brazil, everybody put your flags in the sky and do what you feel.
Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce microphone. Bonsoir à tous. Dans moins de 5 minutes, le magazine de l'économie. Ce sera avec Camille Gros-Didier, mais tout d'abord un bulletin d'information. Au Nigeria, c'est en masse que des personnes ont été enlevées ces derniers jours dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Les autorités locales et les habitants accusent Boko Haram. Selon plusieurs témoignages, une trentaine de personnes ont été tuées et plus de 90 femmes ou jeunes filles ont été enlevées au cours d'une série de raids dans plusieurs villages le week-end dernier. Les autorités locales ont annoncé ce mardi que les attaques ont eu lieu dans les villages situés à environ 100 km de Maïdigouri, la capitale de l'état de Borno. Par ailleurs, 38 autres personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont été tuées par des hommes armés à Karshi et Nandou, deux villages de l'état de Kaduna. C'est ce qu'annonce l'agence France Presse qui cite les autorités locales. Le Cameroun aussi se mobilise contre Boko Haram. Les forces de sécurité disent avoir tué 8 membres présumés du groupe islamiste lors d'une patrouille à Maroua, dans l'extrême nord frontalier avec le Nigeria. Nos éléments sont tombés sur une dizaine d'islamistes. L'affrontement a été engagé et nos forces ont pris le dessus, a affirmé un officier de la gendarmerie. Aussi, 40 islamistes présumés ont été arrêtés après bouclage du marché de Maroua. Lionel Gaïma.
La radio nationale camerounaise a rapporté que des soldats lourdement armés ont pris d'assaut le marché central de Maroua, l'un des plus importants dans le nord du pays. Ils ont arrêté près de 40 suspects et saisi du matériel qui n'a pas été spécifié. Wanika Baba, un commerçant local, affirme que beaucoup de personnes interpellées étaient ses collègues.
Je ne comprends pas. On a fermé le marché depuis 2 jours. On ne sait pas ce qui se passe.
C'est la première fois que l'armée camerounaise mène une opération d'une telle ampleur en une seule journée dans cette région frontalière avec le Nigeria. Le colonel Pierre Niemek, qui a dirigé ce raid, dit avoir reçu des ordres du gouvernement central qui veut lutter contre les incursions de Boko Haram. Les autorités exhortent les citoyens à coopérer en fournissant des informations sur les présumés sympathisants de la secte islamiste.
Nouvelle attaque dans la zone côtière du Kenya. Les autorités font état de 5 personnes tuées et plusieurs blessées la nuit dernière à Malili. Le raid n'a pas été revendiqué. La semaine dernière, les islamistes somaliens d'Al-Shabaab avaient revendiqué le meurtre d'une 60aine de personnes dans une attaque similaire. Mais le président kenyan Uhuru Kenyatta attribue ces attaques à des réseaux politiques locaux et parle de violences ethniques aux motivations politiques.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le secrétaire d'État américain John Kerry estime que la formation d'un gouvernement inclusif est le défi central que doit relever l'Irak. M. Kerry poursuit ses consultations dans la région pour contrer la progression des militants islamistes descendant sur Bagdad, la capitale. Le point, Michel Joseph.
Le chef de la diplomatie américaine a rencontré à Erbil Massoud Barzani, président de la région autonome du Kurdistan dans le nord-est de l'Irak. Pour M. Barzani, l'Irak fait face à une nouvelle réalité et les Kurdes sont à la recherche d'une solution à la crise. Les forces kurdes ont pris le contrôle de la ville pétrolière de Kirkouk, un des secteurs abandonnés par les forces de sécurité irakiennes dans leur fuite face aux combattants de l'État islamique en Irak et au Levant. L'Irak en est à un tournant critique de son histoire, a déclaré John Kerry.
In recent days, the security cooperation between the...
Ces derniers jours, la coopération sécuritaire entre les forces ici en territoire kurde a été réellement cruciale pour tracer une ligne en ce qui concerne l'État islamique en Irak et au Levant, et aussi pour fournir du soutien aux forces de sécurité irakiennes. Selon un haut fonctionnaire du département d'État, il est très important d'impliquer les Kurdes dans le processus politique. Il estime que leur retrait d'un tel processus allait accélérer beaucoup de tendances négatives.
En Russie, le président Vladimir Poutine a demandé à la Chambre haute du Parlement de révoquer l'autorisation d'envoyer des soldats russes en Ukraine pour défendre les expatriés russes et les Ukrainiens russophones. Le Conseil de la Fédération lui avait accordé ce droit en mars dernier après la fuite du président Yanukovych et la destitution de son gouvernement. Et puis sport, football, l'Uruguay s'est qualifié pour le 8e de finale du Mondial en battant 1-0 l'Italie, qui est éliminée mardi à Natal dans le groupe D. Le but uruguayen a été inscrit par Godin en fin de partie. L'Italie a joué à 10 après l'exclusion de Margesio.
Washington, Camille Grodidi avec vous pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. Les investissements directs étrangers en Afrique ont augmenté de 4% en 2013.
Ce sont quand même des données assez prometteuses pour l'Afrique, puisque en 2012, par exemple, c'était la région dans le monde qui avait des flux soutenus d'investissement, alors que nous avions fait l'expérience de déclin dans d'autres régions.
Tous les détails avec l'économiste Axel Giroud de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. L'ONG Transparency International demande au G20 d'aider à démasquer l'argent sale.
Pour accroître, par exemple, la vitesse de circulation des fonds, eh bien, on a fait un certain sacrifice sur l'identification des gens qui font circuler ces capitaux.
On suivra les explications de Jacques Terray, vice-président de Transparency International France. Et le prix mondial de l'alimentation 2014 rend hommage aux percées cruciales concernant le blé. Les investissements directs étrangers en Afrique ont augmenté de 4% en 2013 pour se chiffrer à 57 milliards de dollars. C'est ce qu'annonce la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, dans son rapport annuel sur les investissements dans le monde. Le rapport analyse comment les entreprises peuvent contribuer au développement durable post-2015 en adoptant des pratiques innovantes et responsables en matière de finances et d'investissement. Pour plus de détails sur l'évolution des investissements en Afrique, on écoute l'économiste Axel Giroud de la CNUSED.
En 2013, les investissements en Afrique continuent leur croissance, une croissance qui est de 4%, qui est similaire à la croissance dont l'Afrique avait fait l'expérience en 2012. Ce sont quand même des données assez prometteuses pour l'Afrique, puisque en 2012, par exemple, c'était la région dans le monde qui avait des flux soutenus d'investissement, alors que nous avions fait l'expérience de déclin dans d'autres régions. Donc pour 2013, au niveau mondial, nous avons une croissance de 9%. À 4%, l'Afrique a fait l'expérience d'une croissance un peu moindre que la croissance globale, mais ceci s'explique aussi puisque les pays développés avaient fait l'expérience de déclin important en 2012 et ont retrouvé une assez forte croissance en 2013. Quand on compare au niveau global, donc l'Afrique se positionne plutôt bien.
Alors l'Afrique se positionne bien, mais est-ce que, une fois de plus, ces investissements semblent réservés à certains secteurs, notamment le gaz et le pétrole ?
Cette année, dans notre rapport sur l'investissement dans le monde, nous nous penchons un petit peu plus sur la directionnalité des investissements en Afrique et dans les pays les moins avancés dans le monde. Nous avons fait une analyse sectorielle afin d'identifier les secteurs les plus attractifs pour l'investissement direct étranger. Ce que nous peut voir, c'est qu'en réalité, certains secteurs tels que la manufacture et les services occupent une part croissante des activités greenfield, donc des investissements de création de capacités. C'est excessivement positif pour l'Afrique, puisque cela veut dire que d'un autre côté, les secteurs de l'industrie extractive attirent une part qui diminue des investissements directs étrangers. Pour vous donner un exemple, ce que l'on voit entre 2004 et 2013, donc sur une période de 10 ans à peu près, nous voyons la part des projets annoncés pour l'industrie extractive diminuer très fortement, dans le cas de l'Afrique, de 52% à 11%. Cela veut dire que même si, en termes de valeur cumulée, l'industrie extractive reste importante, à 26% dans le cas de l'Afrique, si l'on regarde au cours des 10 dernières années, cette part a tendance à diminuer dans les nouveaux projets, donc dans les projets annoncés. C'est quand même assez positif, cela veut dire qu'on peut faire l'expérience, on voit l'expérience d'une diversification dans les industries et l'attractivité des investissements pour l'Afrique.
La CNUSED note dans son rapport que les investissements directs étrangers en Afrique de l'Ouest ont décliné de 14%. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Ceci s'explique par une certaine fragilité économique, aussi des risques politiques et certains conflits régionaux. En Afrique de l'Ouest, tous les pays n'ont pas fait l'expérience d'un déclin. Donc l'Afrique centrale a vu effectivement ses entrées d'investissements directs étrangers décliner de façon significative. Mais d'autres pays, tels que le Ghana, le Gabon, la Côte d'Ivoire, au contraire, ont vu une augmentation de l'entrée d'investissements directs étrangers.
En ce qui concerne les investissements entre pays africains, où en est-on ?
Le rapport se penche sur les flux intra-régionaux en Afrique et nous pouvons voir qu'il y a une augmentation de ces flux intra-régionaux. Les principaux pays investisseurs dans le reste de l'Afrique comptent l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria. Ce sont des pays qui investissent dans tout secteur, surtout les secteurs de manufacture, des services. C'est aussi quelque chose de très positif en termes de création de chaînes de valeur régionales.
Le docteur Axel Giroux, économiste à la CNUSED, elle était jointe à Genève. Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grodidier avec vous. La ministre malienne de l'économie et des finances, Madame Bouare Félissi-Sokho, est repartie les mains vides de Washington où elle avait conduit une visite de travail des autorités maliennes auprès du Fonds monétaire international. Lionel Gaïma.
Dans une déclaration conjointe à l'issue de cette visite, Madame Bouare Félissi-Sokho et Christian Joss, chef de mission du FMI pour le Mali, ont fait valoir que leur discussion avait porté notamment sur l'achat récent d'un avion, d'un contrat de fourniture autre que des armes et munitions passé par le ministère de la Défense et des anciens combattants, et de l'octroi d'une garantie par l'État liée à ce contrat ainsi que d'autres contrats. Il s'agit de s'assurer que la conduite des finances publiques au Mali est compatible avec les engagements pris par Bamako. Ces engagements de bonne gouvernance des finances publiques figurent dans l'arrangement au titre de la facilité élargie de crédit que le Conseil d'administration du FMI a approuvé le 18 décembre 2013, a fait valoir le communiqué. En d'autres mots, le FMI a envoyé la balle au gouvernement du Mali qui a dû s'engager à mettre en œuvre ces mesures d'ici la prochaine mission du FMI à Bamako, prévue au mois de septembre 2014. Si le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta espérait régler son contentieux avec le FMI à l'occasion de la visite de Washington de Mme Bouare Félissi-Sokho, cela n'a pas été le cas. Il devra faire ses preuves pour que fin septembre, la prochaine série de discussions puisse aboutir. Le FMI s'était dit surpris par l'achat d'un nouvel avion présidentiel à 30 millions d'euros, une dépense considérable que de toute évidence, il ne s'attendait pas à ce que l'État malien entreprenne.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grodidier avec vous. Pour le magazine hebdomadaire de l'économie, le Togo vient de valider un document portant projet de code minier à l'issue d'un atelier qui s'est tenu à Lomé. Une soixantaine de participants venus d'horizons divers, entre autres de l'administration des industries extractives, de la société civile et des collectivités des zones minières, ont pris part aux travaux. Vieux de 18 ans, le code minier actuel ne répond plus aux besoins du pays, explique notre correspondante à Lomé, Kay Lawson. Les dispositions du nouveau code minier ont le but d'encourager l'investissement, notamment dans l'exploration. S'il n'y a pas d'exploration, il n'y a pas de mine, souligne le consultant Michel Durand dans ce reportage de notre correspondante Kay Lawson. On les écoute.
Le Togo veut se doter d'un nouveau code minier. L'actuel vieux de 18 ans ne répond plus véritablement aux exigences de l'heure. Pour y arriver, un document a été élaboré et soumis à la validation. Le nouveau code minier a donc pour but de développer et d'encourager l'investissement minier au Togo, ce qui ne peut se faire sans les explorations, souligne le consultant Michel Durand.
Les dispositions du nouveau code minier ont ce but-là d'encourager l'investissement, notamment dans l'exploration. S'il n'y a pas d'exploration, il n'y a pas de mine. Il y a d'autres préoccupations de la population concernant l'acceptabilité sociale, la consultation et évidemment les retombées économiques pour le pays. C'est bien beau de demander aux investisseurs de venir investir, mais il faut que le pays aussi en tire profit, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des retombées économiques ou fiscales.
En termes de fiscalité, le document validé a intégrer des dispositions dont nous parle Simon Chouinard, il est fiscaliste.
En termes de fiscalité, il s'agit en fait d'avoir des dispositions qui ne feront pas en sorte de faire fuir les investisseurs. Si on n'a pas de mine, si on n'a pas d'exploration, il n'y a pas de retombées non plus pour le pays. Alors, il s'agit d'avoir un ensemble de mesures qui font en sorte que les promoteurs miniers soient présents. Alors, une fois qu'ils sont présents et qu'ils ont des projets et qu'ils ont des revenus, bien là, rentre en ligne de compte le juste partage de ces revenus-là avec le pays, avec les Togolais. Alors, évidemment, l'essence même des propositions fiscales, c'est d'assurer un rendement juste pour l'investisseur et un rendement juste pour l'État.
L'atelier de validation du nouveau code minier a vu la participation de la société civile togolaise. Basile Takba, président du Collège de la société civile au sein de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE Togo.
Notre présence à cet atelier avait un double objectif, celui donc de nous battre pour la prise en compte d'un certain nombre d'éléments en faveur donc de l'environnement, en faveur du développement des localités minières, mais aussi l'intégration de tout ce qui est exigence de l'ITIE, c'est-à-dire de faire publier un certain nombre d'informations, notamment les rapports issus donc des études d'impact environnemental et les programmes de mise en œuvre de ces études-là. Je pense que c'est un pas en avant dans le secteur minier et une victoire pour les populations et des localités minières et pour l'ensemble de la population.
Après cette validation, la société civile togolaise planifie de faire des plaidoyers pour que le document tel que validé puisse être voté en l'état par le Parlement togolais afin de conserver les acquis en faveur de l'environnement et pour le développement des zones minières. Kaila San Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Washington, Camille Grosdidier pour le magazine de l'économie. Les dirigeants du G20 doivent prendre des mesures pour empêcher les corrompus de se cacher derrière des sociétés écrans. C'est ce qu'affirme l'ONG de protection de la bonne gouvernance, Transparency International, à l'occasion du lancement d'une campagne mondiale intitulée « Démasquons les corrompus ». À l'heure actuelle, de nombreuses économies n'exigent pas ou ne conservent pas d'informations sur les personnes qui possèdent ou dirigent des sociétés enregistrées dans leur pays, fait valoir Transparency International. Cette absence de transparence facilite la dissimulation et le transfert des avoirs volés par des individus corrompus ou encore par le crime organisé ou des terroristes. On suit les explications de Jacques Théré, vice-président de Transparency International France.
Tout cela provient de, j'allais dire, la liberté du commerce. C'est-à-dire que dans la mondialisation actuelle, qui a permis quand même une croissance tout à fait considérable, un des instruments essentiels a été la liberté de circulation des fonds, la liberté d'investissement des capitaux d'un pays à l'autre. Mais pour permettre cette liberté, pour accroître par exemple la vitesse de circulation des fonds, eh bien on a fait un certain sacrifice sur l'identification des gens qui font circuler ces capitaux et sur la localisation des capitaux. On a voulu laisser de la liberté. Et le revers de la médaille, c'est précisément le blanchiment, c'est-à-dire le fait qu'en libérant les mouvements de capitaux, on a aussi facilité les mouvements qui sont dus à des activités illicites.
Quelles seraient certaines des recommandations de Transparency International?
La recommandation principale consiste à dire qu'on veut savoir qui est le bénéficiaire effectif des capitaux, des immeubles que possèdent les gens. On veut savoir qui est le bénéficiaire parce qu'actuellement, il y a toutes sortes d'écrans juridiques qui sont des sociétés, qui sont des trusts, qui sont des fondations, qui permettent de cacher le nom du véritable propriétaire ou du véritable bénéficiaire. Et notre recommandation essentielle, c'est qu'on oblige les États à tenir des registres ou à tenir des dossiers dans lesquels on sait qui se cache derrière ces écrans. C'est ça notre principale revendication. Ça s'appelle le problème du bénéficiaire effectif, en anglais du beneficial owner. Et c'est la campagne actuelle qui est menée non seulement par Transparency, mais par le G20 et par le G8 des grands États. Mais comme c'est notre habitude, nous souhaitons prêter main forte à ces États et les encourager dans leurs bonnes dispositions. La bataille actuelle pour l'identification des bénéficiaires en est à un moment crucial et il faut que, en particulier, les pays anglo-saxons fassent un effort en ce qui concerne les trusts, qui sont un autre écran pour lequel il est plus difficile encore d'avoir des informations.
Mais les trusts font partie intégrale, en fait, des systèmes juridiques des pays anglo-saxons. Alors, comment pourraient-ils être modifiés pour mieux respecter la transparence?
Alors, il ne s'agit pas du tout de les modifier parce que c'est une institution qui est très utile, notamment pour les familles. C'est une institution tout à fait vénérable. Mais ce qu'on souhaite, c'est que les trusts, lorsqu'ils servent d'instrument à des transferts de fonds cachés, eh bien, ils reçoivent une publicité, qu'on sache qui est derrière eux.
Monsieur Jacques Théret, vice-président de Transparency International France, qui était joint à Paris. Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Environ 50 à 80% du café est produit dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, est exporté frauduleusement vers les pays voisins à cause des taxes excessives. C'est dans ce contexte qu'un forum de 2 jours a été récemment organisé à Goma pour parler de l'exportation du café et des moyens d'améliorer le climat des affaires pour une meilleure compétitivité. Le point avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigua.
Il n'y a pas d'investisseurs ou acheteurs qui viennent visiter les planteurs et acheter du café en RDC malgré la bonne qualité produite dans ce pays. C'est suite aux taxes exorbitantes imposées aux opérateurs économiques, explique Mark Smith de l'organisation américaine Westrock Coffee.
Vous allez vous retrouver à payer en RDC pour ce que les exportateurs appellent les taxes formelles et informelles. Donc c'est 1% en Ouganda, 3% en Rwanda, au Burundi 3% et en RDC 11 à 13%.
Le climat des affaires actuel du secteur café en RDC ne permet pas un réel développement des exportations à cause des multiples taxes formelles et informelles supportées par les acteurs de ce secteur et la difficulté d'accès au financement.
Les partenaires internationaux qui attendent ce café, ils se disent, c'est que voilà, je vais acheter ce café à partir du Congo, ça va me prendre à peu près 1 mois pour avoir toute la paperasse et tous les papiers, et cela va me causer un préjudice.
Face à ce déficit, le gouvernement de la RDC a mis en œuvre une stratégie nationale de relance de la filière café visant l'amélioration des performances du secteur à travers une meilleure compétitivité. Il s'agit notamment d'impliquer tous les intervenants dans ces circuits afin de proposer les stratégies qui faciliteront les transactions du café. Malheureusement, l'Office national du café ONC, qui est l'organe régulateur de ce secteur en RDC, semble être en difficulté pour bien jouer son rôle. Albert Kabangwa est le directeur général de l'ONC.
Ce sont des coopératives privées qui devraient faire un certain nombre de choses et qui ne les font pas. Et même dans les textes qui créent l'Office national du café, il est même dit que l'ONC peut pallier donc à l'exportateur défaillant dans des zones où il n'y a pas d'exportateurs. Mais nous savons très bien que chaque fois que l'ONC pourrait arriver à faire cela, ce sont des voix qui vont s'élever pour dire « nous devenons juge et partie ».
Ce forum de réflexion et concertation sur le climat des affaires dans la filière café a été organisé par Elan RDC et Eastern Congo Initiative, qui a réuni durant 2 jours les acteurs étatiques et privés de la région. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique.
Washington, Camille Grodidi avec vous. Vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie. La croissance a repris aux États-Unis après un hiver paralysant. Mais il n'empêche que, tout comme le Fonds monétaire international, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, a réduit ses prévisions de croissance pour 2014. Morgan Guiriec.
Dans sa revue annuelle consacrée aux États-Unis, publiée à la mi-juin, le FMI prévoyait une croissance du PIB de 2% en 2014 contre 2,8% anticipé en avril en raison du ralentissement au premier trimestre de l'année. La Fed, la Banque centrale américaine, est du même avis. Elle a également ramené ses prévisions de croissance de 3 à 2% pour 2014. Néanmoins, la patronne de la Fed, Janet Yellen, reste résolument optimiste, car les dépenses à la consommation et la production industrielle ont augmenté au second trimestre de l'année. Le comité monétaire estime donc que l'activité économique se redresse dans le trimestre en cours et continuera de croître à un rythme modéré par la suite. Par ailleurs, le chômage a baissé plus rapidement que prévu, alors que selon la Fed, l'inflation se maintient en dessous de l'objectif de 2%. En conséquence, le comité a décidé de réduire à nouveau le rythme de ses achats d'actifs visant à stimuler l'activité économique. La Réserve fédérale compte également maintenir ses taux d'intérêt et directeurs très bas. À partir du mois prochain, nous allons acheter 35 milliards de dollars de titres par mois, soit 10 milliards de moins par mois. Certains économistes redoutent qu'en maintenant ces taux directeurs proches de plancher record, la Fed ne stimule l'inflation, alors même que les salaires n'évoluent guère, ce qui pourrait décourager la consommation, le moteur traditionnel de croissance aux États-Unis. Quant au chômage, qui reste au-dessous des 6%, on s'interroge sur son niveau réel, vu que nombre d'Américains découragés ont renoncé à chercher du travail, ce que les chiffres ne reflètent pas.
Et pour finir cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie, eh bien, le prix mondial de l'alimentation 2014 a été décerné au docteur Sanjaya Rajaram, qui est né en Inde, avant de prendre la citoyenneté mexicaine. Jacques Aristide.
Le docteur Sanjaya Rajaram a succédé à l'agronome américain Norman Borlaug à la tête du programme de sélection de blé du Centre international d'amélioration du maïs et du blé au Mexique. Il s'est distingué en mettant au point 480 variétés de blé qui ont été distribuées dans 51 pays de 6 continents par des petits agriculteurs tout comme de grands exploitants agricoles. Le prix mondial de l'alimentation, World Food Prize en anglais, a été créé en 1986 par le docteur Borlaug, lauréat du prix Nobel de la paix. Il récompense toutes les contributions à l'amélioration de l'alimentation mondiale, quel que soit leur domaine scientifique, agronomie, distribution ou encore économie. Nous sommes reconnaissants pour les centaines de nouvelles espèces de blé que le docteur Rajaram a mises au point, qui fournissent 200 millions de tonnes de céréales supplémentaires au marché mondial chaque année et nourrissent des millions de personnes à travers le monde, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivi.